Voilà, bonjour Thomas et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, merci de me donner la parole.
Voilà, Thomas, une actualité assez dense. Aujourd'hui, je crois que vous allez commencer par parler de liberté religieuse.
Oui, effectivement. Comme tous les 2 ans, notre association, l'Aide à l'Église en détresse, publie un rapport consacré à l'état de la liberté religieuse dans le monde. Et évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un rapport qui analyse pays par pays quelle est la situation, mais les grands axes qui ont été révélés par ce rapport sont au nombre de trois, hein, pour simplifier. On note une expansion du terrorisme islamiste. Bon, ça, je pense que ça ne surprendra pas vos éditeurs qui sont habitués de cette chronique parce que c'est quelque chose qu'on dénonce régulièrement, puis c'est un phénomène qui est assez visible malheureusement. Tout particulièrement dans la région du Sahel, qui est probablement la région la plus touchée, particulièrement au Burkina Faso, au Niger. Le Niger est le gros point d'attention depuis ces derniers mois, dans ce qu'on appelle la région des trois frontières en particulier. Il y a une augmentation du terrorisme islamiste. Et il y a une tendance à des groupes transnationaux. Qui souhaitent l'instauration carrément d'un califat et qui n'ont aucune considération pour les équilibres traditionnels qui pouvaient exister entre les différentes religions de ces régions, donc les religions principalement traditionnelles, chrétiennes et musulmanes, bien entendu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la pandémie de Covid-19 a été utilisée par certains gouvernements pour mettre plus de pression sur les minorités religieuses. Ça a été vrai en particulier en Inde. Sous prétexte de cette pandémie, d'énormes restrictions ont été mises sur les célébrations chrétiennes en particulier. Et alors là, c'est pas le fait des États, mais c'est plus un sentiment diffus au sein des populations. Et il est arrivé que les minorités religieuses chrétienne, mais pas seulement, ça pouvait être chez les religions traditionnelles, donc que ces minorités religieuses soient accusées de répandre la Covid-19. Donc ça, comme malheureusement, comme ça s'est vu dans le passé, quand il y a un fléau, on cherche des responsables et c'est souvent sur la tête des minorités religieuses que ça tombe. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a analysé aussi dans certains pays et qui est évidemment très inquiétant et qui nous fait d'autant plus espérer la fin de ces pandémies. Enfin, le dernier phénomène qui est là aussi une tendance large qu'on a pu voir dans les rapports précédents, ça concerne le suprémacisme ethno-religieux qui peut prendre plusieurs formes. On l'a vu au Myanmar en particulier ou en Birmanie, c'est le même pays, hein, où on a vu l'idée que la Birmanie ou le Myanmar est un pays à majorité bouddhiste et que les autres communautés sont au mieux des invités, au pire des gens qu'on n'a pas très envie d'avoir sur le territoire et par conséquent on les discrimine par tous les moyens pour leur signifier qu'ils sont au mieux des citoyens de seconde zone et au pire qu'on veuille les expulser carrément du pays. Ça a été visible. C'est visible aussi en Érythrée d'une certaine façon où là pour le coup c'est une forme de christianisme qui est proposée par l'État et toutes les autres sont bannies. C'est évidemment aussi le cas dans des pays musulmans, en particulier le Pakistan, dont on parle très régulièrement à cette antenne. Donc, à la lecture de ce rapport, évidemment, ce n'est pas des très bonnes nouvelles que j'ai à proposer à vos auditeurs. On ne voit pas d'évolution positive à l'égard des minorités religieuses. On pourrait espérer qu'avec l'accès général à l'information, il y ait des points de vue plus posés, plus pondérés sur les autres religions. Mais malheureusement, les religions minoritaires dans beaucoup de pays souffrent d'une très grande pression. Et c'est le cas évidemment des chrétiens dans le monde qui sont très nombreux, qui représentent de grandes minorités et qui voient la pression s'accroître sur eux de toutes les façons imaginables. Pour parler en chiffres, parmi les 196 pays qu'on a étudiés, à peu près dans un pays sur trois, il y a des violations notoires de la liberté religieuse. Dans la précédente édition, c'était 1 sur 5. Donc ça, c'est quelque chose qui s'élargit, qui tend à toucher plus de pays. Donc évidemment, cela porte notre attention au maximum et cela confirme qu'on a encore beaucoup de travail à accomplir pour prévenir, pour prévenir ces situations, pour avertir de ce qui se passe. Parce que je ne pense pas que les grands médias aient conscience de ça, aient conscience qu'il y a non seulement les discriminations contre les minorités religieuses, et en particulier la minorité chrétienne, existent, mais qu'elles soient en expansion du fait de groupes extrémistes et du fait aussi de la politique de certains États qui sont tout à fait discriminatoires à l'égard de ces minorités.
Oui, Thomas, donc finalement, là, on peut dire que la situation s'est en quelque sorte aggravée et peut-être que les grands médias, c'est peut-être pas un sujet qui intéresse nos grands médias d'ailleurs.
Bah, malheureusement, j'ai pas de point d'explication à donner pour ça, mais malheureusement, effectivement, c'est en dehors d'associations comme la nôtre ou de l'association Portes Ouvertes, on voit assez peu ces sujets remonter dans les grands médias.
Oui.
Voilà, c'est pour le premier point. Alors, je parle en commençant de l'expansion des groupes extrémistes, islamistes, en particulier au Sahel. Et ça existe aussi dans d'autres pays. Et là, c'est pour ça que je vais vous parler de la République démocratique du Congo. Si
alors, juste Thomas, juste avant d'aborder le sujet sur le Congo, est-ce que ce rapport, il est accessible en ligne?
Oui, tout à fait. Alors, on peut le trouver en ligne en tapant rapport sur la liberté religieuse. Vous allez y avoir accès, en plus de langues d'ailleurs, il y a le français, mais il y a aussi l'anglais, l'espagnol, enfin, je ne sais même plus en combien de langues ça a été traduit. Et vous pouvez accéder aux grandes conclusions du rapport, mais aussi il y a une carte avec tous les pays du monde, et vous pouvez cliquer sur chaque pays, même les plus inattendus d'ailleurs, nos constatations. Donc évidemment, en Islande, par exemple, il n'y a pas tellement de problèmes de discrimination à l'égard des minorités religieuses, mais dans des pays assez inattendus, je pense par exemple aux Maldives, auxquelles on ne pense pas, mais où en fait la situation est très grave pour les minorités religieuses, on peut aller examiner point par point ce que dit la constitution du pays et puis ce qui arrive effectivement. Il y a souvent un grand écart entre ce que propose la constitution, qui promet très souvent la liberté religieuse et puis la liberté d'opinion, et puis les faits sont souvent malheureusement assez différents.
Voilà. D'accord, merci. Mais justement, et on le trouve aussi sur le site de l'AED
Oui, en lien, tout à fait. Alors,
en lien avec le
site
lien.
De l'AED France, hein, parce que là je vous parle de l'AED France, moi je suis l'antenne française. À partir du site de l'AED France, vous pouvez accéder au rapport sur la liberté religieuse. Sinon, en tapant dans un moteur de recherche « rapport sur la liberté religieuse, aide à l'église en détresse », vous allez tomber dessus tout de suite.
D'accord.
C'est peut-être la façon la plus simple de procéder, d'ailleurs.
Alors Thomas, vous vouliez nous parler aussi donc du Congo et notamment d'une interview?
Oui, alors on a été en relation. On a interviewé Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek, qui est l'évêque du diocèse de Butembouni. Ce diocèse est à l'est de la République démocratique du Congo, donc qui est frontalière avec à la fois le Rwanda et l'Ouganda. Il est très très frontal dans cette interview pour accuser non seulement les groupes qui sèment le désordre dans son diocèse, et puis quand je désordre, c'est un euphémisme, parce que y a une situation qui confine à la guerre civile. Donc il critique ces groupes d'une part, mais il critique aussi le gouvernement, son propre gouvernement congolais, qui à ses yeux est complètement impuissant face à la situation qui est en train de se développer. Le point de départ de l'interview, si l'AED avait fait appel à lui et avait voulu l'interroger, c'est parce qu'il y a en ce moment des manifestations assez violentes qui ont lieu au Congo, notamment justement dans la région en question, dans l'est du pays. Et au début du mois d'avril, il y avait une manifestation qui a occasionné la mort de 11 personnes. Et cette manifestation avait eu lieu pour se plaindre de l'inaction des forces des Nations Unies qui sont supposées garantir la paix dans cette région. Mais au fait, ils constataient qu'à quelques centaines de mètres des forces des Nations Unies, il y avait des actions terroristes qui avaient lieu et puis, en fin de compte, les terroristes s'en sortaient toujours. Donc évidemment, les Congolais sont très très furieux de cette situation et manifestent bruyamment. Lui, dans l'interview, explique qu'évidemment, il rejette toute forme de violence dans ces manifestations. On ne doit pas avoir recours à la violence, mais il comprend tout à fait l'agacement, l'épuisement même de la population congolaise qui est confrontée à cette situation. Parce qu'ils ne savent plus à quel fin se vouer. Ils sont dans un territoire qui est supposé faire partie de la République démocratique du Congo, mais où l'armée ne fournit pas son travail de défense des populations, où ils sont kidnappés massivement. Il y a eu près de 6 000 morts depuis 2013 dans cette région à cause des conflits. Il y a eu 7 500 personnes kidnappées. Et 3 millions de déplacés en tout. Alors c'est un chiffre énorme, hein, 3 millions de déplacés. Ça explique, parce qu'évidemment il y a ces conflits donc, qui font fuir les personnes qui ont peur. Aussi, comme dans tous ces pays africains, à partir du moment où il y a un conflit quelque part, toutes les personnes qui ont assez peu pour vivre ne peuvent plus vivre du tout. Parce que s'il y a un conflit quelque part, les routes commencent à être coupées, le prix des denrées alimentaires remonte et ceux qui vivent au jour le jour avec assez peu d'argent ne peuvent tout simplement plus vivre du tout. Même s'ils ont un petit travail, ça ne suffit plus. Et donc, ils sont obligés de prendre leur valise et de partir pour plus loin. Donc, c'est une véritable catastrophe. À ses yeux, il s'agit non seulement d'une action terroriste classique, mais il y a carrément une volonté de plusieurs groupes extrémistes de redessiner la carte de l'Est du pays et d'en faire un pays islamique, d'en faire un pays régi par la charia, où les chrétiens et les minorités des religions traditionnelles ne sont plus la bienvenue.
Il répond, d'ailleurs, il parle assez cash, hein, parce qu'il dit, quand tu lui poses la question de la responsabilité du gouvernement, alors il laisse le doute, hein, c'est-à-dire que soit c'est une question de faiblesse du gouvernement, soit c'est une complicité carrément.
Exactement, exactement. C'est très frontal, mais comme il dit lui-même, on a une grande force, nous, l'Église catholique du Congo, c'est que nous avons grandement participé à la formation de ce pays. C'est nous qui avons la moitié des églises, la moitié des écoles, la moitié des écoles, la moitié des hôpitaux, pardon, les églises bien sûr, mais la moitié des écoles, la moitié des hôpitaux. Donc on a un rôle de premier plan qui fait que le gouvernement ne peut pas s'en prendre à nous. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut le dire. Et lui, il ne s'en prive pas. Hein. Il est tout à fait frontal et direct dans son interview que je vous invite à retrouver sur le site de l'aide à l'église en détresse. Il dénonce en particulier le pillage des ressources de République démocratique du Congo. C'est connu que ce pays est une mine extraordinaire en toutes sortes de matériaux, y compris en terres rares, en coltan tout particulièrement. Et il explique que le coltan qui vient de sa région est raffiné au Rwanda, alors que le Rwanda ne possède aucune mine de coltan sur ses propres terres. C'est vraiment pas difficile pour n'importe quel gouvernement, n'importe quel organisme de tracer ce coltan, de savoir qu'il est extrait en toute illégalité de République démocratique du Congo, oui. Sans que ça rapporte rien à la population locale, au contraire, ça leur rapporte que des ennuis. Et c'est d'autres qui en profitent. Donc des hommes d'affaires rwandais probablement assez véreux qui profitent de cette manne, et des groupes locaux qui le vendent exactement comme Daesh en son temps vendait le pétrole des
oui.
territoires.
Alors justement Thomas, il y a une connexion dont on parle très très peu dans les médias, qu'on voit se reproduire hein, dans différents territoires du monde, hein, c'est-à-dire que cette connexion entre, on va dire, une espèce d'État islamique qui s'installe et des richesses, hein, il ne s'installe pas n'importe où, on va dire en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Alors que ce soit État islamique d'ailleurs ou des États ou des groupes terroristes. Ouais, qui ont intérêt à ce que le chaos s'installe. À partir du moment où ils arrivent à installer une situation de chaos, les gouvernements qui sont censés gérer ces ressources ne peuvent plus le faire, et donc c'est eux qui mettent la main dessus, qui peuvent rançonner les populations, qui peuvent profiter des ressources naturelles. Ce que dit l'évêque, c'est que soit l'État congolais est incapable de lutter contre ces groupes, et c'est très grave, parce qu'il est censé quand même le faire, et il a normalement les moyens de le faire, soit il est carrément complice, c'est encore pire, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a
corruption.
Une corruption jusqu'au sommet de l'État congolais. Mmh. Il ne l'exclut pas, en tout cas, dans son interview, sans pouvoir le dire, parce qu'il n'a probablement pas la démonstration. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une des deux possibilités, il n'en voit pas d'autres, hein, et j'en vois pas d'autres non plus, à vrai dire.
Alors Thomas, vous vouliez aussi nous parler quelques mots sur l'Indonésie?
Oui, alors on vient de recevoir le message très inquiet d'un youtubeur chrétien qui qui s'appelle Joseph Paul Zhang et qui est menacé d'extradition. Il vit en exil. Il fait des vidéos YouTube contre l'extrémisme islamiste dans son pays. Alors, on est embêté avec ce bonhomme parce qu'il est effectivement extrêmement frontal et c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter parce que les musulmans indonésiens, si on attaque le prophète Mohammed, si on attaque leur religion, il y a peu de chances qu'ils soient amenés à avoir de bonnes relations après avec les chrétiens. Ceci dit, ce qui est dit pour sa défense, c'est que en face, il y a aussi des prédicateurs musulmans qui sont très tôt sur YouTube d'une part, et d'autre part, il est censé appartenir à un pays où la liberté d'expression existe. Et malgré ça, il est attaqué pour blasphème, parce que la loi de blasphème existe en Indonésie, et est menacé à jusqu'à 5 ans de prison par l'État indonésien lui-même. Et ça, c'est outre, évidemment, toutes les menaces physiques qu'il reçoit par ailleurs. Donc, j'ai eu une interview de lui. On va très prochainement publier un article avec toutes les précautions à prendre avec un sujet tel que celui-ci. Évidemment, on ne souhaite pas tendre la situation en Indonésie, on ne souhaite pas lever les religions les unes contre les autres. Par contre, il faut mettre l'État indonésien face à ses responsabilités, lui rappeler que la loi s'applique pour tout le monde, que de même que les prédicateurs chrétiens doivent faire preuve de retenue, il faut que ceux qui sont musulmans en face fassent preuve aussi de retenue, de façon à ce que chacun puisse parler posément et faire avancer la concorde au pays qui en a besoin. Parce que malheureusement, là aussi, même si l'immense majorité des Indonésiens sont des gens tout à fait modérés, il y a une frange extrémiste qui est importante et qui tend à avoir une influence grandissante auprès de l'administration indonésienne. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là.
Eh bien Thomas, donc avant de rendre l'antenne, également un mot sur une prochaine visite du Saint-Père en Ukraine ?
Oui, alors c'est une possibilité.
C'est une possibilité.
Pas encore garanti. Il est possible qu'effectivement le pape François se rende en Ukraine. C'est ce que souhaite beaucoup Monseigneur Zviatoslav Eshkouf. Alors pardon si je le prononce mal, mais c'est le primat de l'église gréco-catholique ukrainienne unie à Rome, qui est une jeune, entre guillemets. Alors elle est ancienne par le temps, mais elle est en train de renaître et de se redynamiser parce qu'elle avait été très fortement persécutée pendant la période soviétique. Mais elle est en train de remonter assez fort, c'est une église assez dynamique. Et la visite du pape François serait pour tout le monde une nouvelle, y compris évidemment pour la majorité orthodoxe du pays, parce que ça me remettrait un peu de normalité dans ce pays. Ça réunifierait les chrétiens qui peuvent avoir tendance à s'opposer sur la question de l'union au patriarcat de Moscou ou un christianisme qui regarde plus vers l'Occident, si vous voulez, que ce soit chez les orthodoxes ou chez les catholiques.
Mais sur le plan religieux et puis sur le plan politique, hein, c'est quand même un pays charnière où il y a des enjeux énormes entre l'OTAN.
Exactement, et puis c'est un pays où le conflit n'a jamais été complètement résolu. Il reste les régions à l'est, le Donbass en particulier, continuent à être dans une situation de conflit larvé, où les frontières ne sont pas dessinées encore précisément, et il y a beaucoup de pression de l'Est et de l'Ouest contre l'Ukraine. Donc la visite du pape François pourrait être une bonne nouvelle, effectivement, pour ce pays.
Eh bien, en tout cas, Thomas, merci beaucoup à nouveau pour ce partage et ces actualités avec l'AED.
Je vous en prie, merci beaucoup de nous donner la parole.